Aujourd'hui, on a un gros, gros défi de préserver notre environnement, de préserver notre planète. Et en fait, il faut que ce récit collectif-là, on le construise ensemble, qu'on mette le débat sur des choses qui sont plus inspirantes, qui donnent envie d'y aller, quoi.
Bonjour, je suis Thibault Lamarque, le fondateur et président de Castali, une entreprise de l'économie circulaire créée en 2011. Pour le podcast La Relève, je vais à la rencontre des acteurs du changement, celles et ceux qui rebattent les cartes de l'ancien monde, qui repensent les modèles dépassés et inventent de nouvelles méthodes pour bâtir une société moins gourmande en ressources, plus écologique, mais aussi plus juste, plus humaine, au service du plus grand nombre. Bref, ceux qui osent. Aujourd'hui, je reçois Anne Lecor, 28 ans et cofondatrice du syndicat Printemps écologique. L'ambition de cet éco-syndicat, faire des salariés des acteurs de la transition environnementale. Face aux syndicats historiques que l'on connaît, Printemps écologique fait mouche et espère d'ici quelques années devenir représentatif au niveau national. Quel est le rôle d'un éco-syndicat? Pourquoi Anne a-t-elle choisi de travailler le syndicalisme comme levier d'action écologique? Comment faire évoluer la loi française grâce à un syndicat? Elle nous dit tout au micro de La Relève. Salut Anne.
Bonjour.
Bonne année.
Merci, toi aussi.
Est-ce que tu peux te présenter, nous parler de toi?
Bretonne.
Ouais, d'où ça? C'est où la Bretagne pour toi?
La Bretagne, c'est le plus à l'ouest. non, ouais, bretonne. Aujourd'hui, je vis à Paris. J'ai un passé chez Renault, où j'ai travaillé, et puis aussi dans un cabinet de conseil. Et aujourd'hui, je travaille à plein temps sur l'initiative Printemps écologique. Donc, ça fait bientôt 2 ans.
Ouais, tu as grandi en Bretagne?
Oui, grandi en Bretagne avec une enfance un peu particulière où je n'ai pas été à l'école.
Ouais,
donc j'ai été scolarisée à la maison.
Ouais.
Donc c'est un mode un peu différent. Et puis arrivée au lycée, puis ensuite Rennes et puis Paris. Voilà.
Ok. Tu as des frères et sœurs?
Oui, 5 frères.
5. Donc tu étais où dans la fratrie?
Je suis la plus grande.
Et vous étiez donc les 6 à la maison?
6 à la maison, voilà.
À l'école à la maison?
Mm-hmm. Oui, carrément.
Et ça, c'est quoi? C'était une volonté de tes parents ou...
Ouais, c'est ça, une volonté de proposer une alternative à ce qui était proposé par l'école traditionnelle. Ce qui a été, ouais, voilà, juste un parcours un peu différent et puis un petit choc aussi à l'arrivée au lycée. La découverte des interactions, des différentes dynamiques aussi entre les gens, entre les personnes. Et donc, un peu aussi une claque à ce moment-là, quoi.
Ouais, c'est-à-dire?
Bah parce que c'est aussi ce qui a provoqué le parcours ensuite où j'ai pas mal voyagé, où je me suis intéressée beaucoup à comment les gens échangent les uns avec les autres, que ce soit au niveau interpersonnel, mais aussi dans leur langue, au niveau culturel. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, les gens arrivent à créer du lien? Et ça, quand je suis arrivée un peu dans le monde extérieur, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait énormément. Et donc ça a, je pense, pas mal façonné... la manière dont je vois les collectifs, la manière dont on fait société tous ensemble. Quoi.
Finalement, de toute ta jeunesse jusqu'à 16 ans, vous étiez en monde fermé ou vous étiez...
On n'était pas en monde fermé, c'est-à-dire qu'on habitait quand même dans une maison à la campagne, avec très peu de voisins, et on était un petit peu en vase clos, même ouais. Si évidemment on avait des contacts avec l'extérieur, mais ce n'était pas notre quotidien. Quoi.
Comment on fait pour faire du sport ou comment est-ce qu'on suit les matières finalement jusqu'à la seconde?
On avait des programmes assez flexibles. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup lu.
D'accord.
C'est ce qui a fait que... Enfin, c'était mon activité principale. Et puis après, les matières comme les maths, la physique, etc., c'était des choses qu'on voyait un peu moins, que j'ai rattrapées après. Mais c'est vrai que le programme était assez flexible et on faisait un peu ce qu'on voulait, quoi.
Et du coup, après, donc, t'es en seconde générale?
Ouais, économique et sociale.
Ouais.
Et puis après, langue étrangère appliquée à la fac, toujours dans cette dynamique de voir un peu comment se font les échanges, comment les gens communiquent les uns avec les autres, même dans des langues différentes.
T'es parti à l'étranger?
Ouais, 1 an et demi aux États-Unis, à la frontière avec le Mexique, à Ciudad Juárez, qui est une ville frontière qui est assez conflictuelle en soi, parce que c'est là où passent à peu près tous les trafics qu'on peut imaginer. Et donc moi, j'étais côté américain, mais il y avait quand même ce poids et aussi, je dirais pas affrontement, mais en tout cas cette dichotomie entre la culture mexicaine et américaine qui ne se parlait pas et qui voulait pas se parler.
Nouveau-Mexique, c'est pas la culture mexicaine qui domine?
En fait, au Nouveau-Mexique, côté américain, du coup, il y a 50% de Mexicains et 50% d'Américains. Et en fait, ces deux cultures-là ne se parlent pas, ils n'ont pas envie. Les Américains n'apprennent pas l'espagnol, par exemple. Et les Mexicains qui sont côté américain parlent espagnol dès qu'ils peuvent, quoi. Et donc, c'est assez intéressant de voir ça.
Quand tu rentres à Paris, tu travailles chez Renault ?
Ouais.
Qu'est-ce que tu fais ? C'est que tu travailles derrière, là ? On est à Boulogne-Billancourt, oui, au siège de Castalie. On est à 50 mètres du siège de Renault.
C'est ça. Alors, du coup, j'ai fait du marketing. Ça s'appelait de l'optimisation de revenus. C'est-à-dire que j'étudiais certaines pratiques marketing spécifiques à des pays, donc ouais, des pratiques marketing culturelles, pour essayer de voir si c'était des choses qui pouvaient s'implémenter et appliquer à d'autres pays. Donc en fait, c'était du partage de bonnes pratiques entre les différents pays où Renault vendait des véhicules, quoi.
Tu peux nous donner un exemple ?
Il y en a plein. Par exemple, en Italie, la couleur blanche, c'est un vrai sujet. Et donc, ils avaient essayé de renouveler un peu la couleur blanche auprès des Italiens en termes de voitures. Et donc, ils avaient regardé en France si ça pouvait s'appliquer, si ça fonctionnait. Enfin, voilà.
Tu restes combien de temps chez Renault ?
Je reste un an.
Pourquoi tu pars ? Enfin,
besoin de plus de dynamisme ou de... Je commençais un peu à m'ennuyer.
Ok, et donc tu as été chassé ou tu postules tu...
Je postule à un cabinet, un cabinet d'audit et de conseil. Et là, du coup, j'y reste 2 ans et quelques.
Qui s'appelle comment ?
Qui s'appelle Grant Thornton.
Ok, et là, donc tu es consultante ?
Consultante en organisation. Donc là, l'idée, c'est d'aller faire des diagnostics dans les entreprises et voir comment on peut organiser les process, les services, les directions de manière un peu plus optimisée. Ultra intéressant. Parce que je vois plein d'entreprises différentes, plein de problématiques différentes. On identifie aussi beaucoup de souffrances au sein des entreprises. En tout cas, moi, c'est ce que j'y vois aussi. Quand il y a une réorganisation d'une entreprise, ça ne vient pas de nulle part et ça ne va pas nulle part non plus.
C'est-à-dire ?
Les entreprises sont pas mal dans des dynamiques de coupure, ou en tout cas de réduction des coûts. C'est souvent ça, en fait, l'objectif d'une réorganisation. Ou parce qu'on a envie de digitaliser sa fonction. Enfin, voilà, il y a ces raisons-là. Et du coup, en fait, c'est des changements qui demandent un management du changement qui peut mettre en tension en fait, les équipes et les salariés qui sont dans ces organisations-là. Donc, c'est des changements qui sont accompagnés, mais qui parfois peuvent créer des tensions ou juste bouger de manière parfois un peu violente les salariés. Quoi.
Donc, tu consultes ?
Je consulte. Mais dans le même temps, en fait, c'est rigolo parce que je crois que c'est le conseil qui m'a fait aller beaucoup vers les questions de transition écologique et aussi les questions sociales, notamment la question féministe, où c'est aussi un univers qui a pas mal de contrastes sur la question de l'égalité homme-femme. Il y a un plafond de verre qui est assez épais. Il y a énormément de choses qui font que je me suis beaucoup intéressée, de plus en plus intéressée aux questions sociales et écologiques. Avec aussi cette idée de vouloir m'engager de plus en plus dans mon entreprise sur ces questions-là.
Ouais.
C'est-à-dire que je ne voyais pas pourquoi est-ce que mes engagements dans les associations qui étaient forts... Enfin, j'étais engagée dans des associations écolo ou qui faisaient de...
Quelle association, par exemple ?
Ça s'appelait à l'époque COP Non Official, où okay, on essayait de réinventer un peu, de recréer du dialogue autour de, ben voilà, des engagements suite aux accords de Paris. Il y avait aussi des engagements plutôt sur la question de l'aide alimentaire d'urgence pour les nourrissons. Enfin, voilà, j'étais un peu déjà engagée dans la société civile. Et il y avait de plus en plus cette envie d'amener ça aussi au cœur de l'entreprise. Et moi, clairement, c'était quelque chose dont je parlais à mes collègues, qui n'étaient pas forcément toujours bien reçus, etc. Mais mes engagements externes, en fait, je les amenais dans mon cabinet, je les amenais auprès de mes collègues parce qu'il y avait une grosse dissonance entre ce que je faisais et ce que je vivais au travail, quoi.
Pourquoi pas forcément bien accueilli ?
Ça dépend, parce que c'est une question de culture. Je sais pas. Par exemple, au fur et à mesure de mes réflexions, je suis devenue végétarienne pour des questions écologiques. Et quand on dit ça, et que, en fait, ou même qu'on ne le dit pas et qu'on prend l'option végétarienne, ça va venir poser des questions de la part des salariés. Et souvent, ça peut être, on devient très vite en fait, l'écolo de service. Sans être particulièrement vindicatif ou autre. Hein. C'est juste qu'on a cette étiquette-là.
Là, on est en quelle année, ton passage là, chez Grant Thornton ? C'est quelles années ? Parce que là, aujourd'hui, dire qu'on est végétarien par engagement écologique ou politique, je pense que c'est mieux accepté. Mais effectivement, moi, le premier, je me souviens que mon premier jour chez Alter Echo, et ça date un peu, ça doit faire 13 ou 14 ans, je vais déjeuner avec Tristan Lecomte, le fondateur, et je prends un steak tartare. Et lui, t'es végétarien, pour les raisons que tu connais ou que tu citais. Et je l'avais pas fait par provocation, mais je sortais de chez Veolia, et j'adorais mon steak tartare. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais, tu vois, finalement. Alors, je ne suis pas devenu végétarien tout de suite. J'ai mis quelques années à mûrir, mais aujourd'hui, je le suis devenu. Et tu vois, accessoirement, chez Castalli, aujourd'hui, tu n'as plus un apéro ou un cocktail ou une fête où il y a de la viande ou de la protéine animale qui est donnée. Mais je suis d'accord avec toi que l'écolo de service, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était un sujet.
Je pense que ça dépend vraiment des milieux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de milieux où on peut encore être l'écolo de service. Même si ça évolue effectivement, mais c'est quand même toujours très présent. On peut avoir l'impression, et moi je pense que de par le milieu où j'évolue, j'ai l'impression que c'est de moins en moins le cas, mais je sais qu'il y a encore 2 ans, dans ma boîte, c'était ce que c'était.
Et est-ce que c'est pas parce qu'on est en train de vivre un changement quand même radical ?
Alors, j'espère carrément, mais je pense qu'il faut qu'on garde en tête aussi que... les personnes engagées, ou en tout cas, moi, j'ai l'impression aussi d'évoluer dans un microcosme ou un environnement qui n'est pas la réalité de tout le monde, quoi, en France. Et donc, oui, ça change de plus en plus vite, mais il y a aussi une réalité qui est que pas encore tout le monde, quoi.
On est le 11 janvier, il y a Don't Look Up qui est sorti il y a 15 jours ou 3 semaines, qui doit être, numéro 1 ou 2 sur Netflix au niveau mondial. Ouais. Ça, est-ce que ce n'est pas finalement une illustration, peut-être pas du changement, mais en tout cas du changement des mentalités, du fait que l'écolo de service est toujours moqué, mais on commence à prendre conscience que le dérèglement climatique, le changement, le réchauffement qui est en cours, il est d'origine humaine et qu'il va falloir se bouger le cul.
Carrément. Non, ça c'est clair. Il y a des signes très encourageants de prise de conscience au niveau global. Je pense qu'il reste beaucoup de choses à faire entre la prise de conscience et le passage à l'action réel et impactant. C'est-à-dire qu'on a tous conscience de ça, du problème, etc. Mais je crois que la conscience du pas, de la marche qu'il faut monter pour vraiment prendre ce sujet à bras-le-corps, elle n'est pas encore là, quoi.
Non, parce que quand on sait qu'on est à 12 tonnes, en gros, par an, et qu'on doit passer à 2 tonnes en 2050, effectivement, ça ne va pas être facile. Comment est-ce qu'on passe de l'écolo-service d'un cabinet de conseil à cofondatrice d'un syndicat écologiste?
Ça commence donc par ces engagements-là que j'ai au travail. Ça passe ensuite par la création d'une communauté de salariés qui s'appelait à l'époque Pro for Climate. Des gens d'un peu toutes les entreprises, tous les horizons, tous les métiers. Et on se demandait fondamentalement, on se réunissait, on se disait « Ok, qu'est-ce qu'on peut activer comme levier d'action? Qu'est-ce qu'on peut porter dans nos entreprises pour en fait pousser nos entreprises et nos organisations ?» à se transformer. Et comment on est aussi acteurs, nous, salariés, parce que, comme je disais tout à l'heure, cette dissonance entre ce que je fais chez moi et ce que je fais au travail, où on ne réfléchit pas à ces questions-là, c'est un problème pour moi, quoi. Et donc, cette communauté de salariés évolue, grandit, et puis finalement, on va parler aux différentes parties prenantes, que ce soit les ressources humaines, que ce soit la RSE, que ce soit nos directions, mais aussi les représentants du personnel, ceux qui, en fait, nous représentent aussi auprès des directions. Donc,
Mais parce que tu ne trouvais pas tes repères ou tu ne trouvais pas ce que tu voulais dans les syndicats existants ?
Je pense que c'est le cas de la plupart des personnes qui ont monté le collectif Printemps écologique. Le syndicat Printemps écologique, c'est qu'on se sentait très peu représenté. En tout cas, moi, si je parle à mon jeu, je me sentais très peu représenté par ce qui était porté par les syndicats traditionnels. Ils ne portent pas, en tout cas, à mon sens, suffisamment la question de transition écologique. Pour nous, ce n'était pas suffisant ce qu'il y avait déjà, quoi.
C'est quoi le panorama, finalement, du syndicalisme aujourd'hui en France ? Enfin, là, tu étais dans un grand cabinet de conseil. Qu'est-ce qui... Moi, quand j'étais cadre, je n'ai jamais été syndiqué. Et je ne pourrais même pas te citer les syndicats qui étaient présents dans mes sociétés dans lesquelles j'ai travaillé. Est-ce que le syndicalisme français, il n'est pas mort ?
Il n'est pas mort parce qu'il est présent aujourd'hui, de par la manière dont est fait le système, il est présent aujourd'hui dans énormément d'institutions et d'organisations paritaires. C'est-à-dire qu'il est quand même structurellement présent dans beaucoup d'endroits de nos sociétés où se prennent des décisions sociales. Cependant, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'on voit que seulement 11% des salariés privés et publics sont syndiqués. Et que on a donc un vrai sujet de représentativité. C'est-à-dire que les syndicats aujourd'hui représentent finalement pas beaucoup de monde.
Et c'est combien de pourcents de la population, tu sais ou pas?
C'est 11% des salariés privés, publics.
Donc les syndicats prennent des décisions pour 100% des salariés, alors qu'ils ne représentent que près de 10% de la population salariée, c'est ça?
Oui, après, ils ont des gens qui votent aussi dans les entreprises pour eux, c'est de l'ordre de 48%, mais voilà.
C'est-à-dire, c'est quoi la différence entre le 11% et le 48%?
Le 11%, c'est les personnes qui vont adhérer au syndicat. Donc, ils vont payer une cotisation mensuelle pour soutenir. Donc, c'est un peu comme ceux qui vont être dans un parti politique et qui vont prendre leur carte de membre ou d'adhérent. Et ensuite, on a dans les entreprises des personnes qui vont se présenter aux élections professionnelles et ils vont prendre potentiellement une étiquette syndicat. Et donc, les salariés vont voter pour des gens qui ont cette étiquette-là. En fait, ce que ça veut dire, c'est que... Et d'ailleurs, le chiffre que je te donne là, il est un peu biaisé parce que, en fait, on ne sait pas le nombre de personnes qui ont une étiquette syndicat par rapport à ceux qui n'en ont pas. Là, ce qu'il faut retenir, c'est que on a 11% des salariés qui sont adhérents à un syndicat aujourd'hui, qu'ils sont surreprésentés dans certains secteurs et clairement sous-représentés dans beaucoup, beaucoup de secteurs.
Ouais.
Que ce soit, par exemple, service conseil, comme tu l'évoques, il y a clairement une présence syndicale très faible.
Pourquoi ?
Bah parce que c'est aussi un secteur plus jeune en soi, parce que ce n'est pas un secteur comme la métallurgie qui vient de la révolution industrielle où il y a une forte tradition syndicale. En raccourci, souvent les secteurs un peu plus jeunes sont moins syndiqués que les autres.
Finalement, il y a quand même pas mal de boulot, non, pour remettre le...
Ouais.
Parce qu'un syndicat qui fait 9%, même qui fait 20%, est-ce qu'il est représentatif finalement des autres salariés? À quel moment ils ont arrêté d'intéresser les Français?
Donc, je pense qu'il y a une première question qui est la question de l'image des syndicats. C'est-à-dire qu'à la fois, les salariés ne voient pas l'intérêt de se syndiquer, ne voient pas pourquoi, parce que c'est un outil un peu complexe et qu'ils ne voient pas pourquoi ils adhéreraient à un syndicat. Et ensuite, il y a aussi une image des syndicats plutôt de lutte. Aujourd'hui, quand on est dans un syndicat, il y a cette image un petit peu de syndicats dans la rue qui vont, ou même dans les entreprises, qui vont être un peu ceux qui vont être dans plutôt la défense ou en tout cas la réaction, pas forcément constructive, à ce que propose la direction. Enfin voilà, il y a aussi cette image plutôt de
un syndicat d'opposition,
conflit. Ouais, c'est ça, d'opposition et de conflit.
Parce que effectivement, en France, moi, j'ai pas l'impression qu'on ait une culture du syndicat qui vient gouverner l'entreprise avec les patrons, avec les actionnaires, mais qui est plutôt dans la défense des acquis et pas du tout dans l'évolution, parce que la société évolue. Donc finalement, des syndicats sclérosés.
Ouais, et en réaction, quoi. À chaque fois, en réaction plutôt qu'en co-construction.
Du coup, tu es dans ton cabinet, tu es l'écolo de service. À quel moment est-ce que tu te dis « je quitte mon poste pour créer ce syndicat » ?
Alors du coup, je travaille la journée, le soir je fais les réunions, le soir et le week-end je fais les réunions pour For Climate. Ensuite arrive la création de Printemps écologique, Covid, donc premier confinement qui coïncide avec la création du Printemps.
C'est Joséphine Bournonville qui est chez OMI, qui nous a parlé de toi, qui est cofondatrice avec toi.
Ouais, bah du coup elle était complètement à ce moment-là. Avec l'équipe, c'est vraiment collectif, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une vraie émulsion collective qui se passe à ce moment-là. À la fois, c'est intéressant, ça intéresse beaucoup de gens, et en plus de ça, avec le Covid, les gens ont du temps, parce que certains se retrouvent chez eux, soit en télétravail, soit sans activité, parce que tout le monde est confiné, toute la France est confinée, donc il y a ce moment...
T'es où pendant le confinement, toi ?
Je suis en région parisienne, dans une maison avec 5 ou 6 autres personnes.
Ok, donc t'es plutôt un confinement agréable.
Ça va, c'est pas désagréable. Mais du coup, mon travail et le syndicat en même temps. Donc je fais des horaires où je ne quitte pas mon bureau et je passe ma journée en Zoom. Et puis en septembre, en août, je décide de passer mon temps sur le syndicat en entier parce que en fait, je n'arrivais plus à concilier mon travail de consultante. Et il faut dire aussi que mon travail ne correspondait de moins en moins à ce que j'avais envie de faire de ma vie, des valeurs que j'avais envie de défendre et ce que j'avais envie de faire. Et Printemps écologique permet de grandir aussi beaucoup plus sur ces valeurs-là, sur la construction de quelque chose, en tout cas d'une transformation, et pas la transformation des entreprises telle que l'entendait mon cabinet.
C'est quoi ton premier jour où finalement tu quittes le monde du,
ouais, mon
du
dernier
salariat,
jour.
Le confort du salariat?
Ouais, mon dernier jour...
On peut parler d'entrepreneuriat presque.
Ouais. Bah, mon dernier jour de travail, c'est pendant le deuxième confinement. Et juste le jour d'après, bah, je commence directement par le printemps et je fais ça toute ma journée. Je replonge direct dedans et il y a un espèce de poids qui s'enlève quand je sors de mon cabinet de conseil. Et là, je fonce un peu tête baissée sur printemps, quoi.
C'est quoi un syndicat?
Alors, un syndicat, c'est une association qui va...
Donc, c'est une association de loi 1901?
Non, une association de loi 1884. Donc, c'est un peu spécifique. Et c'est une association qui a pour objet la défense des intérêts physiques et moraux des salariés. Créer un syndicat ex nihilo, c'est la croix et la bannière. Parce que c'est un outil juridique qui est assez lourd. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 11 syndicats, des syndicats de branche qu'il a fallu créer individuellement. Donc on va avoir Printemps écologique métallurgie, Printemps écologique service conseil, Printemps écologique éducation nationale. Voilà. En fait, on couvre aujourd'hui 11 secteurs qui se regroupent en une fédération de syndicats. Donc on passe une bonne première partie à faire des statuts, les déposer, etc. Et puis il y a aussi la question de la montée en compétences. C'est-à-dire que ce n'est pas un sujet facile, c'est un sujet technique. Et comme nous, on était tous primo-syndiqués, c'est-à-dire qu'on n'avait pas d'expérience syndicale de base, on était vraiment en apprentissage.
Vous n'avez pas été rejoint par des anciens de...
Si, si,
d'ici
absolument.
Ou là.
Oui, ouais, carrément. Et ça a beaucoup aidé aussi, hein, mais c'est vrai que... Il y a une petite marche à l'entrée quand même qui est de prendre conscience et connaissance du sujet. Et derrière, il y a une autre barrière, c'est qu'un syndicat ne peut pas présenter de candidat avant 2 ans d'ancienneté.
Donc, OK, donc là, vous aurez le droit de présenter des candidats à partir de quand?
Donc, mai.
Et la prochaine échéance?
Bah, la prochaine échéance, ça va être notamment les élections du public en décembre 2022. Et puis, commencer à présenter des listes au premier tour des élections professionnelles. Pour avoir des représentants qui soient Printemps écologique.
C'est quoi les élections professionnelles?
Alors, les élections professionnelles, c'est dans toutes les entreprises, toutes les administrations, tous les 4 ans.
Bah,
à partir de 11 salariés.
Je suis pas vraiment au courant,
ok. À partir de 11 salariés, il faut mettre en place un CSE.
Ça, on est équipé.
Très bien. Donc, c'est ce que j'appelle les élections professionnelles.
Ok.
Qui permettent derrière de désigner, d'élire des salariés qui vont représenter leurs collègues.
Et ça, on est très content d'avoir un CSE chez Castelli, mais est-ce que j'ai envie que mon CSE soit syndiqué?
L'idée, en fait, c'est aussi que les salariés, c'est des salariés qui sont engagés dans l'entreprise, et c'est des salariés qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de formation, qui ont besoin d'être soutenus dans leurs démarches et dans leurs activités. Par exemple, la loi climat et résilience qui est passée en août,
ouais,
intègre de nouvelles prérogatives pour ces élus, mais pas de moyens supplémentaires. Ils n'ont pas forcément de budget et pas d'heures de délégation en plus. Ce qui veut dire qu'on se retrouve avec des salariés qui n'ont pas d'expertise sur les sujets environnementaux, mais qui doivent en parler et qui doivent discuter de l'impact environnemental de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un gros, gros sujet de formation et un gros sujet d'accompagnement. Un syndicat, c'est surtout aussi de la ressource pour que ces salariés-là puissent travailler, avancer, être formés. Et c'est en collaboration et en co-construction, normalement, avec la direction. Nous, ce qu'on veut dire, c'est qu'il faut mettre la question environnementale au cœur de toute la question sociale et au cœur de ce qu'on porte dans les entreprises.
Mais la question, c'est est-ce qu'il faut mettre des mugs à la place des gobelets en carton, du papier recyclé à la place du papier extra blanc blanchi au chlore, ou est-ce que c'est comment est-ce qu'on influence la politique de l'entreprise?
Bah alors, c'est les deux. Souvent, on commence avec les gobelets, je veux dire, dans un cadre général. Nous, clairement, ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est de créer du dialogue, créer des espaces. Il y a plein d'outils qui existent, par exemple, des commissions environnement, on peut mettre plein d'initiatives en place pour qu'on vienne questionner la stratégie de l'entreprise, pour que les salariés deviennent une partie prenante de la construction de la stratégie d'entreprise en prenant en compte la question environnementale. C'est ça qui est important.
Comment est-ce qu'on gère justement une opposition là, qui me vient quand je t'écoute, entre finalement le social et l'environnemental? Le social, c'est de préserver l'emploi, mais est-ce qu'on a envie de préserver l'emploi dans les centrales à charbon? Enfin, le sens de ma question, c'est est-ce qu'il n'y a pas une opposition frontale entre le social et l'environnemental parfois?
Quand on voit le sujet de manière systémique, il n'y a pas d'opposition. C'est-à-dire que comment imaginer la question sociale sans prendre en compte la question des limites planétaires? C'est impossible. En fait, on a des secteurs qui sont déjà en contraction, qui sont déjà en quelque sorte en décroissance. Parce qu'il y a des choses qui se passent au niveau européen, il y a des choses qui se passent au niveau français. Et donc, c'est indispensable de traiter cette question sociale-là à travers le prisme de l'urgence écologique. Pour nous, c'est clairement pas antinomique.
On a parlé tout à l'heure de la loi climat et résilience qui a été votée en août dernier. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans cette loi? Et puis, qu'est-ce qui pourrait être amélioré?
Je ne vais pas parler de la loi au global qui a quand même été pas mal vidée de son contenu. Enfin, on sait tout ce qui s'est passé avec la Convention citoyenne pour le climat, etc. Si on parle de la question qui nous intéresse en tant que syndicat, qui est l'intégration des enjeux environnementaux dans le dialogue social, ce qui est intéressant, c'est que c'est déjà de base, ça légitime en fait Printemps écologique de base. C'est-à-dire qu'on met clairement dans la loi le fait que la question environnementale et écologique doit être un sujet de dialogue social. En termes de message, c'est super important. Après, clairement, elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante parce qu'elle donne des prérogatives nouvelles, mais elle met plus de pression sur des élus sans leur donner plus de moyens. J'en reviens encore à ça, mais le début de la clé, c'est de dire il faut former ces gens-là, quoi. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui soit prévu dans la loi pour ça, quoi.
Et là, aujourd'hui, vous êtes structuré pour les former?
On commence, ouais, bien sûr. On commence à former les salariés, à la fois parce que certains de nos adhérents n'ont jamais été dans un syndicat, donc ne savent pas comment ça fonctionne. Donc nous, on a un vrai sujet à leur expliquer comment ça fonctionne, un vrai sujet pédagogique au final. Après, sur les questions de transition écologique, il y a plein d'outils qui existent déjà, et nous, on n'a pas vocation à réexpliquer le changement climatique, mais on amène ces ressources-là aussi.
À partir du moment où la loi, finalement, impose de prendre en considération la dimension écologique, finalement, les syndicats existants, la CGT et la CFDT Sud, ils vont intégrer la transition écologique dans leur modèle? Et alors, ça va devenir des concurrents, enfin, finalement
Alors, oui, l'idée, c'est ça. C'est que, en fait, je pense que c'est aussi l'idée, c'est que tous les syndicats commencent à s'emparer de ces questions-là. Et donc, ça, c'est ultra positif. Il y a des choses qui se passent, avec notamment des liens qui se font avec de la société civile. On a la CGT et Greenpeace, par exemple, qui se mettent ensemble et qui envoient un message finalement assez fort de dire...
C'est quoi la CGT et Greenpeace?
La CGT et Greenpeace ont fait une alliance avec plein d'autres organisations, grosses associations. Et donc, ils ont publié en fait, des mesures en disant, on intègre le social, l'écologie. Donc ça, c'est au niveau national. Après, ce qu'on remarque, c'est qu'au niveau de l'entreprise et des salariés qui portent les sujets... Souvent, c'est un peu plus compliqué de prendre cette dimension environnementale en compte.
Vous avez combien d'adhérents?
On a 250 adhérents, un peu plus. Et on a une trentaine, quarantaine de bénévoles qui travaillent en plus de leur temps de travail sur le printemps.
Il faut avoir combien d'adhérents pour que ça fonctionne?
Il faut beaucoup d'adhérents, ça dépend. Ce qui est important, c'est d'avoir des gens qui se présentent aux élections professionnelles. Clairement, Printemps écologique, c'est un projet long terme. C'est-à-dire que là, on a bientôt 2 ans. D'ici 7 ans, on peut commencer à espérer avoir suffisamment de poids pour commencer à négocier peut-être au niveau de certaines entreprises et au niveau sectoriel. Mais c'est vraiment un choix long terme, en fait.
C'est quoi ton ambition?
De négocier des premiers accords ambitieux dans les entreprises avec les salariés. Ça peut être sur toutes les questions que tu peux imaginer, que ce soit la mobilité, l'alimentation, et il y en a à peu près plein d'autres. Mais c'est ça, c'est de commencer à avoir des vrais impacts, des vrais contrats dans les entreprises.
Et combien d'adhérents?
En termes d'adhérents, on peut tout imaginer aujourd'hui. Mais l'idée, c'est 1 million dans 10 ans.
Comment est-ce que vous financez? Donc aujourd'hui, là, tu as des allocs chômage. Comment est-ce que vous faites pour... C'est le meilleur. Moi, je dis toujours, c'est la meilleure levée de fonds pour les entrepreneurs. Là, c'est un peu de l'entrepreneuriat que tu fais. Enfin, même c'est complètement l'entrepreneuriat. Comment est-ce que vous financez?
Alors, on se finance de plusieurs façons. Il y a bien sûr les adhésions, parce que les membres Printemps écologique payent une cotisation. Il y a ensuite les appels à projets. Par exemple, on travaille pas mal avec l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail sur la question d'outiller notamment les PME et les ETI sur la question de voilà, comment je prends, moi, quand je suis représentant, comment je travaille sur la question environnementale. Et on a aussi une fondation qui nous finance.
Comment ça se finance un syndicat, enfin, un syndicat classique?
Ah, le syndicat classique, il va se financer à peu près 50% par ses cotisations et 50% par un financement prévu par l'État. En fait,
c'est l'État qui paye.
En gros, c'est les entreprises qui vont verser 0,016% de leur masse salariale à un fonds de financement du dialogue social qui, lui, va reverser en fonction des pourcentages de chaque syndicat aux élections professionnelles. Et après, c'est vrai que bon, il y a le financement des syndicats qui peut être mis en question, notamment sur un point, pas forcément sur les montants, mais plutôt sur la manière dont c'est réparti. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas très vertueux d'avoir une masse d'argent qui est répartie en pourcentage entre les syndicats selon le poids qu'ils ont à chaque élection.
Tu imaginerais quoi ?
Il y a plein de choses à imaginer. Moi, je n'ai pas la solution comme ça, mais je vois ce que ça fait en termes de compétition entre les syndicats. Je vois ce que ça provoque comme situation pendant les élections entre les différentes listes et les différents syndicats. Je pense que ça aussi, ça divise en quelque sorte le paysage syndical. Mais bon, c'est comme ça que le système est fait aujourd'hui. Et nous, on ne peut pas prétendre à ces financements parce que de toute façon, on n'a pas 2 ans et qu'on représente aujourd'hui 250 personnes, quoi. Donc aujourd'hui, on a un gros, gros défi, celui de préserver notre environnement, de préserver notre planète pour nous préserver, nous. Et en fait, il faut que ce récit collectif-là, on le construise ensemble, qu'on arrête de polariser notre société sur des sujets qui sont, moi, je trouve, assez douloureux et assez graves. Et il faut qu'on mette le débat sur des choses qui sont plus inspirantes, qui donnent envie d'y aller, quoi.
Changer de récit, ça, c'est quelque chose qu'on aborde souvent à la relève. Et c'est vrai qu'il faut changer de logiciel.
Ouais.
Si on veut arriver à une bascule. Parce qu'aujourd'hui, l'écologie, c'est pas forcément triste. Ça peut être une écologie des solutions. Et en tout cas, les gens ont besoin de croire en quelque chose.
Carrément.
Merci beaucoup, Anne, pour cet échange. Bravo pour la création du syndicat. La route est encore longue.
Oui.
Et je ne manquerai pas de prendre de tes nouvelles. Et puis, tu pourras peut-être venir nous en donner dans quelques mois. Et puis, merci de ta venue. À bientôt.
Merci beaucoup à toi pour ton écoute, pour tes questions. Et puis, à bientôt.
Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous donner un coup de pouce en le partageant et en le notant sur Apple Podcast. Vous retrouverez également tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute. Merci pour votre fidélité et à dans 2 semaines.